RCFM. France Bleu.
Qui est là?
Help.
Help. Qui?
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Top Top.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzi.
Top Top.
Bienvenue en Corse. Monsieur et Madame Castan, je suis Corinne, l'assistante de direction. Et voici Antoine qui est en charge du garage, du dépannage et des pompes à essence. Je vous fais visiter. Vous avez fait bon voyage. J'ai vu que la mer était extrêmement agitée, vous devez être exténué. En plus avec cette route qui tourne, qui fait vomir tout le monde.
Papa, il n'y a pas les VHS dans le carton 6, j'avais marqué carton 6 VHS.
Chaque changement, c'est une épreuve.
J'ai vu. Enfin, qui est différent.
Mais absolument pas déçu, maman. Mais non, les gens sont charmants. Oui, l'endroit est un peu isolé, mais franchement, la nature est magnifique. Et puis Armand, si tu voyais. Non, il tutoie déjà tout le monde. Il a même pas réclamé ni son orthophoniste, ni sa chambre. Mais puisque je te dis de pas t'en faire, je t'assure. Mais pourquoi tu veux pas me croire? Maman, on en avait ras-le-bol de Paris.
Qu'est-ce que tu fais?
Je te filme.
Non mais ça, je vois que tu me filmes, mais pourquoi?
Le docteur Meunier, il a dit à ma mère qu'il fallait me laisser faire. Mais ma mère, elle a dit à mon père qu'elle savait pas si c'était bon signe ou mauvais signe.
Et toi, t'en penses quoi?
Moi, j'aime bien filmer parce que comme ça, je peux voir plusieurs fois les choses qui se passent qu'une seule fois.
Je suis absolument fan de cette phrase que vous venez d'entendre. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans votre émission Toc Toc jusqu'à 18h où je reçois Julien Ménet, le réalisateur de la série Over la nuit. Vous venez d'entendre quelques extraits de cette série de 40 épisodes qui démarre. Alors, en avant-première à l'Ellipse à Ajaccio à 21h pour celles et ceux qui sont curieux, et vous pourrez la découvrir à partir de lundi, le 23 sur France 3 Corse via Stella à partir de 20h45. Pour en parler, le réalisateur Julien Ménet. Bonsoir.
Bonsoir.
Ça fait drôle d'entendre des extraits comme ça disparates, oui, qui viennent d'épisodes différents.
Oui, en plus, c'est la saison 1 qui va démarrer lundi, que moi j'ai faite il y a plus d'un an. Donc c'est des choses que je n'ai pas entendues depuis assez longtemps. Oui.
Vous ne vous en souvenez plus en réalité.
Si, je les ai tellement vus.
Armand, un jeune autiste Asperger et ses parents débarquent dans une station-service communale au cœur de la Corse. Ils veulent quitter Paris, comme on l'a entendu. Ce jeune garçon va bouleverser la vie de cette petite communauté. Une idée originale de Viviane Zing, qui est l'une des auteurs principales, mais elle n'est pas toute seule, ils sont nombreux. Il y a Denis Parent, par exemple.
Oui, il y a Denis Parent, il y a Christiane Claudette, Arnaud Pitois, et Alice Lemoine, si je ne dis pas de bêtises, voilà, qui ont participé à l'écriture. C'était un groupe d'écriture chapeauté par Viviane Zing. Ouais.
Vous êtes un jeune réalisateur, mais qui a déjà fait parler de lui, avec votre premier court-métrage La Terre Brûlée, ainsi que L'Ogou di Morte, qui est sorti en 2007, me semble-t-il.
L'Ogou di Morte, ouais. Non, c'était en 2017.
2017, ouais. Pardon. Et évidemment, vous avez travaillé sur Hôtel Paradis, ou là, ouais. Pour les auditeurs qui nous entendent. Et je pense qu'on apprend beaucoup de choses comme ça dans l'urgence.
Oui, Hôtel Paradis, où là, c'est un peu la première fiction sur laquelle j'ai travaillé quand je suis revenu vivre en Corse. C'était en 2011. Et j'ai travaillé 6 ans sur cette série comme cadreur, comme monteur, comme assistant réalisateur. Et oui, j'ai appris énormément avec ce programme, oui, bien sûr.
Julien, quelle est votre histoire avec le cinéma?
Oula,
ça commence tout petit.
Ouais, ça commence. Au début, je voulais être comédien. Quand j'étais au collège, je me rappelle même que je disais à mes professeurs, je voulais être acteur américain, parce que je voulais pas être comédien, je voulais être acteur américain. Voilà, j'avais un poster de Bruce Willis énorme dans ma chambre, et c'est un peu parti de. Pour moi, il y avait les acteurs. Il n'y avait pas de réalisateur, il n'y avait pas de scénariste. C'était vraiment les acteurs. Et puis, quand je suis arrivé au lycée, j'ai vu Pulp Fiction. Et comme beaucoup de gens de ma génération, ça a été vraiment un choc. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, il y avait quelqu'un derrière la caméra, en l'occurrence qui s'appelait Tarantino. Et c'est vraiment Tarantino qui m'a fait comprendre qu'il y avait un réalisateur qui faisait des choix, qui écrivait des histoires. Et c'est lui qui faisait le film réellement. Et du coup, moi, j'ai tout de suite voulu faire ça, en fait, plutôt que d'être comédien. Surtout que j'étais pas très bon comédien. Donc du coup, ça s'est fait un peu naturellement.
Mais vous l'avez tenté quand même ou pas?
J'ai pris des cours de théâtre, voilà.
Vaguement,
vraiment, c'était tout de suite, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment fait pour moi. Et par contre, quand j'ai commencé à réaliser, tout de suite là, je me suis vraiment senti à ma place.
Michael Andréani est avec nous ce soir jusqu'à 18h. Bonsoir Michael.
Bonsoir Marie, bonsoir Julien, bonsoir à tous. Bonsoir.
Dans un instant, vous nous dresserez le portrait de la série fiction en Corse. Ce sera tout de suite après Woman. vous allez découvrir sur France 3 Corse via ST, la lundi prochain, le 23 à 20h45. 40 épisodes qui ont été tournés et réalisés par Julien Ménet, qui est notre invité. Alors Julien, après un master de cinéma à l'université de Rennes, j'aime bien ça, dérouler le CV de l'invité, puis l'INSAS à Bruxelles.
Oui, tout à fait.
Au sein de la filière montage.
Oui, oui, en fait, je pense que
de
j'ai
comédien,
fait...
De comédien, vous êtes passé à monteur.
Oui, oui, parce que quand j'ai commencé à parler à mes parents de mon envie de faire du cinéma, c'est vrai qu'ils se sont un peu inquiétés.
Et... Apprends la technique.
Oui, d'accord. Voilà, ils m'ont dit, tu veux pas apprendre un vrai métier. Ouais. Et en fait, bah, du coup, monteur, c'était plus un vrai métier, ça me permettait de vivre. Et du coup, j'ai préféré apprendre ça. Et à côté de ça, je ne voulais pas non plus apprendre la réalisation. Voilà, j'avais pas envie de me confronter à des professeurs un peu tyranniques, comme ça dans les écoles, qui disent ce qu'il faut faire. Donc le montage, c'était très bien. Et je pense que c'est une des meilleures formations pour ensuite passer à la réalisation.
Dans le documentaire « L'eau goût d'immort » qui est sorti en 2017, avoir été monteur, avoir appris le montage pour le documentaire, c'est une arme supplémentaire ?
Oui, mais c'est une arme dont il faut se méfier parce que, en fait, dans le documentaire, ce qui est important et que j'ai découvert en le faisant, c'était qu'il fallait quand même laisser la place à l'imprévu, à des choses qui, voilà, à ce que la vie peut apporter, en fait, quand on est en train de faire un film auquel on pense pas avant. Et c'est vrai que moi, j'avais tendance à beaucoup préparer, beaucoup anticiper. Et il a fallu que j'apprenne à faire ça, à laisser les choses venir plus facilement. Et ensuite, le montage permet de recomposer le réel derrière, quoi.
Laisser un peu le scénario de côté et écrire un petit peu plus au montage.
Oui, exactement. Voilà. Oui. D'ailleurs, on réécrit complètement quand on tourne un documentaire. En général, on a un canevas auquel on pense avant, et puis les rencontres avec les gens qu'on va filmer créent des choses auxquelles on s'attendait pas. Et du coup, au montage, on revoit tout ça et on se dit peut-être qu'il y a un autre film que celui auquel on pensait avant qui existe. Et le montage est là pour ça, pour trouver ce film-là.
Un documentaire qui traite d'un phénomène absolument terrible, ce sont les accidents de la route en Corse, avec lesquels, vous l'avez dit en interview, on grandit malgré nous. Presque on s'habitue à cette idée que le sort peut tomber sur n'importe lequel d'entre nous et on peut un jour avoir un accident. Et c'est quelque chose qui vous a habité, vous avez eu envie
Oui, oui. En fait, c'est un peu relié à mon parcours personnel parce que moi, j'étais étudiant à Corté. Je ne suis pas corse, je suis arrivé en Corse vers 13-14 ans. Et quand je suis arrivé à Corté pour faire mes études, c'est vrai que j'ai été vraiment frappé de la façon dont les gens de mon âge prenaient le volant dans des états pas possibles et prenaient des risques vraiment inconsidérés. Et je me disais, mais est-ce qu'ils ont conscience de ça, même des amis très proches? Et puis, en plus, je vivais une partie de l'année dans un village à Canenzan, en Balagne, où il y avait souvent des accidents assez terribles avec des jeunes qui mouraient et tout ça. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment laissé une empreinte assez douloureuse. Et j'étais très étonné que...
Donc la nuit, les discothèques,
oui,
l'alcool,
voilà,
la drogue...
En plus, ce monde lié à la fête, donc il y avait vraiment ce côté-là, on passe de l'amusement complet à d'un coup la mort. Et je me suis dit, c'est bizarre, personne n'en parle vraiment, dans notre génération en tout cas. Et c'est peut-être important de faire un film là-dessus pour donner la parole à ceux qui ont eu des accidents, qui s'en sont sortis et qui racontent comment... En fait, comment ils en sont arrivés à l'accident. C'est-à-dire, vraiment, on est parti avec eux sur qu'est-ce que tu vivais à l'époque de l'accident, qui penses-tu peut expliquer ce qui s'est passé. Et voilà, c'était un travail qui me semblait important de faire.
Comment a-t-il été reçu, ce film ?
Très bien, enfin, je pense qu'il a été très bien reçu dans la mesure où il a été diffusé et rediffusé de nombreuses fois sur VST. Moi, j'ai fait beaucoup de rencontres, je sais que le film est diffusé souvent dans les lycées. Voilà. Alors, je ne l'ai pas fait nécessairement pour de la prévention, ce n'était pas vraiment ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait plus, c'était essayer de comprendre plus que d'essayer de... Voilà, le discours sur la prévention routière, je pense qu'il est important, mais ce n'était pas le but du film. Et je pense que le film, il a eu un impact assez important.
Non, puis c'est un objet de cinéma, ce n'était pas...
Voilà, il y a ça aussi.
Ah ouais, voilà, c'est pas un reportage pour la prévention routière.
C'est pas une publicité un peu choc. Il y a pas d'image choc du tout. C'est vraiment que des gens qui parlent et qui racontent ce qui leur est arrivé. Et ça me semblait être un meilleur moyen peut-être de toucher aussi un public plus jeune. Les jeunes n'ont pas forcément tendance à écouter les gendarmes, les professeurs. Voilà. Mais par contre, quelqu'un de à peu près de leur génération qui leur explique ce qu'il a vécu, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut marquer beaucoup plus. Quoi.
Peu de fiction en Corse. Il y en a de plus en plus. Elles évoluent, elles changent un petit peu de route, elles sont moins ancrées dans la culture et dans la langue corse. C'est ce que nous voyons avec Michael Andréani.
Oui, effectivement, je vais vous parler ce soir de quelques séries créées en Corse ces 20 dernières années, évoquer donc leurs évolutions diverses. On va attaquer par un classique de mon enfance et mon adolescence, Familia Pastachou, diffusé sur France 3 Corse, au casting Guy Chimin ou Marie-Ange Giron, Jean-Pierre Giudicelli ou encore Stella Guelfucci, même s'ils étaient bien plus nombreux. Série en langue corse intégralement, qui a eu une belle vie puisque produite de 98 jusqu'en 2006, alors souvent basée sur des histoire vraie ou sur des poutates, le tout enrobé de Magagna Bastia, tu as par la troupe du Teatrino. Cette série, finalement, elle peut être considérée comme le premier sitcom en langue corse. Extrait.
Sabidji n'a zon djouan, et on n'a djouan en cabed, et on fougari qui s'y va, j'ai.
Oh, ma, non, toi, Marie n'a djé, hein.
Cosa? Vous fougari? Hein? Vous l'avez mis qu'à, oui, j'tou.
Et par quoi, tchoukou,
hein? Et alors? Cosa aspect, on va faire un granda?
Voilà, donc Marie-Ange Giron, que l'on entend et que l'on embrasse. Et de cette Magagna Bastiatch, on passe en 2007, toujours avec des comédiens du Teatrino, mais pas seulement, à une comédie plutôt fantastique, Ugazalon, avec Pasta Prod aux manettes. Cette maison où des choses étranges se seraient passées est le personnage principal de cette série, toujours en langue corse, mais cette fois-ci sous-titré, de l'aventure, du mystère, mais aussi des moments risibles.
Certi luoghi dove erano sediosi a vederlo. Ma Orestine è più cudo e ci appa sempre a quello che crede scappà. Sono nato qui, a mezzo a ses montagne su Castagnedo.
E il narratore, donc Jean-Pierre Lanfranc. Qui
on évolue avec des effets sonores, hein? Des
oui, déjà, hein, j'allais l'évoquer aussi, hein, ouais. les génériques qui changent. Pastachou, ça faisait très années 80, même si on était plutôt en 98. Là, c'est du Christophe McDaniel aussi, mais on change d'époque, on est dans la fin des années 2000. Non, c'est pas méchant, hein, c'est
pas
juste...
Pas du tout, c'est... vous nous faites rire, c'est,
voilà,
c'est bien.
Une oreille musicale quelque peu aiguisée, bref.
Et puis des extérieurs, là, je vous signale, hein, pour Gazalon,
oui,
et les premières
oui,
images en
c'est
extérieur.
Vrai. C'est vrai, parce que la famille Pastachou était dans un décor assez figé, de, ouais, de cette maison, ça faisait un peu penser même un peu au décor des Minicums parfois. Et puis là, on est vraiment sur de l'extérieur, de la nature, on se déplace en voiture, donc il y a du mouvement. Et après la vieille maison de village et ses paysages de Castagnich, le surclassement intervient 4 ans plus tard avec Hôtel Paradis. Là, vous avez vu le jeu de mots, la puissance. Hôtel Paradis, là, toujours sous l'égide de Pasta Prod 2011, comme le disait Julien. Un hôtel qui est un lieu de rencontre et de discussion pour une clientèle hétéroclite qui se veut être le reflet de la société corse actuelle dans toutes ses composantes. Série bilingue corse-français, donc là vous voyez aussi qu'on change, hein, de la langue corse et du corse sous-titré, on passe à du corse et français dans le dialogue.
On veut toucher série plus qui... de monde. Ouais.
Voilà, série qui veut s'adresser donc, vous l'avez dit Marie, à un public plus large dépassant les frontières de notre île.
Oh, quel beau pays vous avez. La nature. Vous avez de la chance. Hein. Bon, moi, je ne pourrais pas y vivre. Hein.
Ah bon?
Oh, non.
Ah non,
vous... non, non, trop, trop sauvage, trop...
Oui, mais l'odeur du maquis, génial. Hein.
Ah oui.
Et la mer.
Oh,
la mer.
Mais... chaude, transparente, le rêve. Le rêve.
C'est. Mais par contre, on n'a pas vu de terroriste, là.
Sympa l'extrait, hein. Il y avait tant, mais bon, je vais dire celui-là. Ouais, avec ces touristes qui partent donc de l'hôtel.
Non.
Pas de cliché, non, non, jamais, jamais. Et puis la dernière année, cette année, c'est donc Back to Court, c'est la première série de la jeune réalisatrice Félicia Vitti, diffusée il y a quelques mois sur France 3 Corse via Stélé, qui a fini d'ailleurs par être achetée par France Télévisions pour une diffusion plus large. Donc, belle récompense, hein, pour ce programme de qualité qui met en avant une nouvelle génération de comédiens insulaires. Fiction intégralement en français cette fois-ci, qui dresse un portrait drôle et sans concession de la jeunesse corse autour du personnage principal Andrea, qui est brillamment joué par Océane Courmalarone, une Corse d'origine qui vit sur le continent et qui vient passer l'été donc en Corse. Série qui évoque également, Marie, le thème de l'homosexualité féminine, fait inédit et rarissime, qui mérite d'être souligné. Écoutez.
La Corse est vraiment un endroit immuable, c'est toujours le même rythme, toujours la même ronde, toujours le même accueil.
Ah, oh, va, entends, j'ouvre la porte avec, elle me casse pas les couilles, toi. Rad. Bon, tu me suces la vie avec tes coups de fil à l'heure de l'apéro.
Rad.
Prévenir quand tu redescends.
J'étais trop angoissée hier, le retour, ça m'angoisse.
Voilà, au sein de Comalarone et Mrs. Philippe, et aussi avec sa voix bien rauque, bien caractéristique.
La Maria Philippe.
Oui.
Donc on sent bien l'évolution, Julien Ménet, et l'arrivée d'Over la nuit aussi, qui va faire du bruit, c'est encore autre chose.
Oui, oui, d'ailleurs, pour revenir sur...
Hôtel Paradis, là.
Oui, enfin, surtout Back to Corsica, ouais. En l'occurrence. Enfin, moi, j'ai été vraiment bluffé. Moi, j'adore cette série. Je trouve que c'est...
On est deux.
C'est frais, c'est jeune, c'est impertinent. Vraiment, les comédiens sont tous extraordinaires. Enfin, vraiment, j'avais dit à Félicia, quand on s'était rencontré, la réalisatrice, que moi, j'avais été vraiment impressionné. Et je suis très content que ça ait eu le succès que ça a eu, parce que c'est vraiment
succès mérité.
Ouais, complètement.
Ouais. Revenons sur Hôtel Paradise, où le rythme de travail, ce qu'on apprend lorsqu'on travaille sur ce type de série.
Alors, Hôtel Paradise, où là, c'était vraiment l'expérience d'une série industrielle, on va dire, parce qu'on faisait en fait un épisode par jour. Et la première saison, ça a été un peu l'occasion de découvrir ce fonctionnement, je pense, autant pour les techniciens que pour la production. Et vraiment, c'était des tournages où on faisait une saison de 32 épisodes en quasiment 30 jours. Enfin, c'était vraiment très, très intense. Et on sortait de là, en général, complètement essoré, rincé. Et en plus, pour moi, c'était très particulier parce que quand je suis arrivé sur la série en 2011, je parlais pas corse du tout et toute la série était en corse, donc je travaillais, je comprenais rien à ce que disaient les comédiens. Voilà. Maintenant le producteur le sait et ça a duré le temps que j'apprenne en fait le corse au fur et à mesure que la série, j'ai appris le corse avec la série en fait.
Qu'est-ce que vous avez appris dans ce type de série industrielle? Mot est pas péjoratif hein, parce qu'elle a beaucoup plu, elle a duré.
Voilà, et... mais c'était même une volonté de la production de Pierre-François Tchimi, de Pasta Prod, d'avoir un rendement industriel, de voir si c'était possible de le faire. Et je pense qu'on apprend le plus, c'est la débrouille en fait. C'est-à-dire qu'il faut avancer envers et contre tout. Et on apprend aussi, petite anecdote, à ne pas mettre. En fait, la série se passe dans un bar. Et la première saison, je ne sais pas pourquoi, les décorateurs s'étaient dit qu'ils mettaient des vraies bouteilles d'alcool. Je peux vous dire que les premiers jours de tournage ont été assez compliqués. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, allez, on va vider les bouteilles, on met des sirops à la place. Et voilà, ça a facilité un peu le travail.
On apprend à gérer des équipes importantes aussi.
Oui, alors importante, toute raison gardée, puisque quand même, on reste quand même dans une production corse, avec des moyens limités. Mais on était une vingtaine. C'était une. Voilà, après, des gens qui se connaissent. Mmh. C'est ça qui est très bien aussi quand on tourne en Corse, c'est que les équipes, c'est un peu toujours les mêmes. Donc en fait, les gens se connaissent de projet en projet. Donc il y a une entente, a priori, qui est là. Et puis les gens ne comptent pas leur temps. Vraiment, ils s'investissent au-delà de juste du projet. Quoi. Mmh.
C'est Pasta Prod qui produira La Terre Brûlée?
Oui, tout à fait. Oui, en fait, moi, j'ai rencontré Pierre-François Tchimin, justement, de producteur à Pasta Prod sur Hôtel. Et on s'est bien entendu, on a travaillé 2-3 ans ensemble. Et puis, au bout d'un moment, il me dit, mais toi, tu ne veux pas réaliser, tu ne veux pas faire des choses. Et je lui dis, si, moi, justement, ça fait 2-3 ans que je développe un projet de court-métrage qui s'appelle justement La Terre Brûlée. Et il m'a dit, écoute, fais-moi le lire et puis je te dirai ce que j'en pense. Et il a beaucoup aimé le scénario. Et du coup, on s'est dit, allons-y, on part là-dessus, on essaie de faire le film. Et ça a pris du temps. Ça a pris 3 ans, mais au final, on a réussi à faire le film, et je pense qu'on en était très contents, lui et moi.
Mais il a beaucoup plu.
Le film a beaucoup plu, oui. Alors, ce qui est très étrange, c'est que le film a fait le tour du monde, mais a été diffusé nulle part en France. Ça, c'est inexplicable, alors je ne l'explique toujours pas. C'est-à-dire que je suis parti à New York, je suis parti en Espagne, au Maroc et tout ça, mais le film a vraiment fait le tour du monde, et en France, personne ne l'a vu, quasiment. C'est un peu un mystère, on ne se l'explique pas. Je ne pense pas que ce soit lié au sujet. Après, c'est un film un peu long, de 30 minutes, sans dialogue. Voilà, il y a pas mal de raisons qui font aussi que ce n'est pas un film très facile d'accès.
Qui rentre facilement dans les cases.
Voilà, exactement.
Avec, pour personnage principal, Jean-Emmanuel Pagne, et n'oublions pas, Élise Lomo. Élise Lomo, elle est à la Comédie Française aujourd'hui.
Tout à fait. Élise, c'est une comédienne que moi j'ai rencontrée il y a 7 ans, donc à l'époque où je préparais ce film, et elle sortait du Conservatoire de Paris, et je l'avais découverte dans la bande-annonce d'un film de Léo Scarrax qui s'appelle Holy Motors, et j'avais été vraiment subjugué par la présence en fait de cette fille, et je l'ai rencontrée pour le casting, et voilà, je me suis dit, il faut absolument que je tourne ce film avec elle, parce qu'elle a une présence extraordinaire, et il se trouve que, en fait, Élise est surtout une comédienne de théâtre à l'origine, et elle est rentrée il y a un an à la Comédie Française, et depuis ça se passe très bien. Voilà.
Vous avez du nez ou du bol?
Non, j'ai du bol. Ouais. Là, sur ce coup-là, j'ai vraiment eu du bol.
C'est incroyable, non, de voir un jeune acteur ou une jeune actrice qu'on a repéré soi-même et qui d'un coup a une carrière éblouissante.
Oui, d'ailleurs, j'espère pouvoir retourner avec elle très vite. Quoi.
Pour Over la nuit, que nous découvrirons donc lundi prochain à 20h45 sur France 3 Corse UST, là. Et puis en avant-première au cinéma L'Ellipse, combien d'épisodes?
Alors, c'est 3 épisodes qui vont être diffusés demain soir.
Demain soir,
voilà, à L'Ellipse, les 3 premiers épisodes de la saison 1.
Voilà. Et normalement, vous devriez être un petit peu intimidé demain, si tout va bien ou ça va ?
Non, ça va.
C'est vrai ?
Ça va, ça va. Bah, en fait, la particularité de cette série, c'est que je ne l'ai pas écrite.
Ouais.
Donc, quelque part, c'est mon bébé, mais je le porte avec d'autres personnes. Et du coup, ça dilue un peu la pression voilà, entre les auteurs, le producteur et
donc, si l'accueil est moyen, finalement, ce n'est pas que vous.
Non, mais je suis sûr que l'accueil sera très bon.
Donc, c'est Maré Terragne qui produit Over la nuit. Ils ont fait appel à vous. Comment ça s'est passé ?
Alors, en fait, il y a en 2007, à l'été 2007, je fais Le Goût d'Immorte, et donc ce documentaire dont on parlait tout à l'heure sur les accidents de la route, je le fais avec Paul Morognoni de Maré Terragne. Et ça se passe très bien. Et puis, Paul sait aussi que je fais de la fiction. Et on travaille tous les deux sur un projet de court-métrage de fiction à cette époque. Et je termine le documentaire. Et Paul me dit, écoute, je ne sais pas ce que tu fais après, voilà, dans les mois qui viennent, mais moi, j'ai une série qui est prête à tourner. Là, on tourne dans 2 mois. Est-ce que ça t'intéresse ? Alors, moi, je lui dis, bah oui, oui. Bien sûr, fais-moi lire. Et puis il me dit, voilà, par contre, je te préviens, on tourne un épisode par jour, un épisode de 20 minutes. Et je lui dis, ouf, là, ça va être compliqué. Et puis au final, je pense que je me dis, c'est un bon challenge quand même, voilà, faire 40 épisodes de 20 minutes seul en tant que réalisateur, ce n'est pas les choses qu'on vous propose tous les jours. Donc j'aurais été bête de ne pas accepter. Et donc je suis parti là-dedans. C'est un projet, voilà, la série s'est faite sur 2 ans. Ça a été très long. Je suis parti vivre à Toulouse parce que tout le montage se faisait à Toulouse. Voilà, on choisit pas des fois. Hein. Et enfin, j'aurais pu tomber plus mal. Hein.
Bien sûr.
Voilà. Et donc, on a travaillé comme ça en fait pendant 2 ans. On a tourné d'abord les 20 premiers épisodes. Il y a eu 6 mois de montage, et puis de nouveau 20 épisodes suivants, de nouveau 6 mois de montage, et on a terminé tout là au mois de mai dernier.
Avec des intérieurs, des extérieurs, jour, la nuit.
Oui, c'est pas une sitcom. Voilà. Ouais. En plus, ça s'appelle Over la nuit. Alors au début, c'est ça qui me faisait un peu hésiter, c'est qu'une grande partie de l'histoire se déroule de nuit.
C'est ça.
Donc on se dit, ok, on tourne de nuit au mois de janvier à Francard. Voilà, je sais pas comment on va gérer ça. Et au final, ça s'est très bien passé. Voilà, l'équipe était hyper motivée, très solidaire, et donc ça a été parfait, quoi.
Les acteurs ? Le casting ?
Le casting, ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de faire la série. Parce que déjà, il y avait Jean Pagne, avec qui j'avais déjà fait un film que j'adore. Et puis, il y avait Cédric Apieto, avec qui j'avais jamais tourné, mais que j'aime énormément comme comédien. Et entre autres aussi, Aurélien Gabriel, que je connaissais pas, qui est un jeune comédien corse qui a fait le Conservatoire de Paris, et que j'ai découvert sur la série, et qui est vraiment un comédien extraordinaire, vraiment avec une palette de jeux fabuleuse. Et Axel Bossard aussi, qui joue Corinne. Et puis, ils étaient déjà sur le projet quand je suis arrivé.
Le comédien dont vous parliez, c'est le rôle d'Armand, donc
le fils autiste voilà, ouais. Qui était interprété par Aurélien Gabriel et qui a vraiment s'est investi totalement dans ce personnage, au point que des fois, on ne savait pas trop dénouer le vrai du faux.
Et puis, c'est-à-dire que voilà. Lorsqu'il ne filmait pas, il était le même en réalité.
C'est-à-dire qu'Aurélien est un petit peu autiste. Non.
Et il a fallu, en tout cas pour les auteurs, se renseigner, travailler sur le comportement des autistes pour être au plus proche de la réalité. Comment ont-ils travaillé ?
Oui, je pense que c'était même une idée de départ de cette série, c'était de parler de l'autisme, et en particulier des autistes Asperger, qui sont des autistes qui ne correspondent pas vraiment à l'image qu'on se fait de l'autiste, c'est-à-dire qu'ils sont pas forcément cloîtrés, c'est pas forcément des gens avec qui on peut avoir un contact, vous pouvez même en avoir autour de vous sans le savoir en fait. Et c'était, mais il y a plein de nuances différentes.
À la différence de certains autistes où il est très difficile d'établir des liens.
En contact, les Asperger peuvent être très ouverts, mais c'est vrai qu'ils ont une façon de voir le monde qui est souvent un peu décalée, un peu étrange. Et je pense que Viviane Zing, qui a créé la série, avait très envie de parler de ça. Et surtout, c'est un moteur de récit formidable. C'est-à-dire que quand on a un personnage comme ça, toutes les situations sont possibles. Il y a un décalage vraiment énorme entre lui et les autres, et c'est très riche, quoi.
Mais ça crée des ressorts comiques, aussi de l'émotion, et puis des situations complètement ubuesque, et c'est pour ça que c'est riche.
Voilà, tout à fait. Oui, on passe par moments à la comédie, au mélo. Enfin voilà, c'est une série avec une palette d'émotions qui est assez riche. C'est pas vraiment comme les séries dont on a parlé tout à l'heure, qui sont la plupart du temps des séries humoristiques. Voilà, parce que c'est un genre qui plaît, tout ça. Ouvert la nuit, c'est plus une série, je vais dire, une sorte de chronique familiale quotidienne, voilà, sur cette famille et sur ce jeune adolescent. Et,
chronique et de village aussi.
Chronique de village, voilà, chronique de vie. Et puis, moi, je tenais à ce que ça soit autre chose que juste une comédie. Voilà, c'était très comédie dans le texte. Et quand Paul me l'a proposé, le producteur, moi, je lui ai dit, écoute, moi, tu sais, je ne fais pas nécessairement de la comédie. Et il m'a dit, mais justement, c'est ça que j'ai envie de voir. C'est comment toi, tu mets aussi ton regard de cinéaste là-dessus. Et moi, c'est vrai que j'ai un regard un peu plus plus mélancolique la plupart du temps dans ce que je fais. Et ça, voilà, ça s'est rencontré avec la comédie des textes. Et moi, je trouve que c'est un très beau mélange.
Alors, les personnages, ils sont absolument incroyables tous. Vous avez raison de le souligner. Je n'ai pas vu tous les épisodes. Ne commencez pas à râler, les auditeurs. Je n'ai vu que quelques épisodes. Je suis privilégiée. Mais je trouve que très vite, ils sont installés. Très vite, on s'attache à eux. Ils sont vraiment très très bien écrits, ces personnages.
Oui, oui, ils sont très bien campés. Après, c'est là où je trouve les auteurs...
L'attitude, la voix, voilà, les costumes...
Ils ont été très forts là-dessus. C'est-à-dire que sur une série, il faut que le spectateur sache très vite en fait, à qui il a affaire. Et ils ont tous des rôles très définis. Ils sont tous campés, en fait, immédiatement. Tant physiquement que dans le phrasé, tout ça. Et ça, c'était important qu'on ait ça dès les premiers épisodes pour qu'on, voilà, pour qu'on puisse s'attacher à eux tout de suite.
Et Corinne, donc, qui nous souhaite la bienvenue et qu'on a envie de suivre très très volontiers, surtout avec la première scène que je ne dévoilerai pas du premier épisode.
Ça commence fort.
Ouais, Demeure la nuit, que vous découvrirez donc lundi à 20h45 sur France 3 Corse VST. Là. Et pour les chanceux qui sont à Ajaccio, trois épisodes donc demain au cinéma, L'Ellipse. Et je crois que c'est à 21h, me semble-t-il.
21h ou 20h,
ou 20h. Mais renseignez-vous, si la radio ne vous le dit pas, renseignez-vous. On va vous le dire juste après le disque.
Destination of many living a life barely worth living, let alone worth remembering. When I'm gone, please no sympathy. It's not really the end of me. I'm just returning to my original form of energy potential. It's just as real as reality. Like every single great truth that began as a blasphemy. I'm unreasonable, man. I make the planet adapt to me.
Give me a poison. I'll take a shot.
Whether it's a human relationship or space station, manifestation of the abstract. What a hobby, either change the course of history or be dismissed as artsy. It's malarkey, it's been darkening my heart. So on the track, I'm shedding, sharding, then departing in the dark. Then returning to the peace within the turbulent urban life that I'm living. Where one's own mind can be its prison. The source of his upliftment, his worst enemy or his first friendship. Bringing new light to your life, much like a birthed infant. I burn incense out of respect for my neighbors while I flame up and contemplate my next major change up. Funny how we can sometimes resist the things that change us for the better. Still I remain a go-getter.
You wanna mark me, you ain't got my number. So don't pick up the phone.
balance, tout le monde s'en balance, je disais, mais je passe du très bon son ce soir. Donc j'aimerais quand même que vous vous en rendiez compte tous. Julien Ménet, notre invité, le réalisateur d'Over la nuit. Série qui va démarrer lundi prochain, ce sera le 23 à 20h45 sur France 3 Corse via STL. Et en avant-première, demain à 21h, c'est bien à 21h, au cinéma L'Ellipse, où vous pourrez découvrir 3 épisodes de cette série de 40 épisodes à découvrir donc sur France 3 Corse via STL. L'histoire d'une famille, un couple qui arrive avec leur fils, un jeune autiste Asperger, Armand, et ils débarquent donc du côté de Pontelletch pour prendre en gérance une station service. Évidemment, cela va bouleverser la vie du village et des gens qui sont bien installés dans le coin, et puis leur vie également, puisque après Paris, ça fait quand même un petit choc, n'est-ce pas, Julien?
Paris-Francardo, je pense que surtout ouais. Au mois de janvier, je pense que le choc il est terrible.
Bon, et puis on apprendra dans la série pourquoi ils ont dû partir. Je ne vais pas le révéler ce soir. Marc-André Castellani, bonsoir.
Bonsoir, bon azer à toutes.
Quel plaisir de vous avoir.
Oh, comme c'est gentil.
Mais vraiment.
Mais le plaisir est tout partagé, Marie.
Je crois que vous avez été touché par le premier film de Julien Ménet, La Terre Brûlée.
Alors voilà, avant de jouer un peu à la guitare comme d'habitude, voilà, je profite de l'invité de ce soir, de Julien Ménet, pour dire deux mots évidemment sur ce film Terra Rougeade, La Terre Brûlée. Alors voilà, moi j'ai découvert ce film, j'ai trouvé, c'est un sujet qui nous touche, c'est un sujet qui nous serre la gorge puisque c'est notre histoire. Et dans la réalisation, on voit qu'il y a un soin très très particulier qui est apporté au plan avec une succession de tableaux et au visage également, avec Paul Garat qui joue un rôle qui est aussi entre un vampire de Castlevania et je sais pas, et Christopher Lee, enfin quelque chose d'assez impressionnant. Et je trouve qu'il y a une ambiance de chaos qui règne dans le film, qui m'a fait penser un petit peu à ces films russes qui racontent le front de l'Est. Je pense par exemple à Requiem pour un massacre, ou L'enfance d'Ivan, ce genre de cinéma où tout la guerre fait. N'est pas pris dans le côté spectaculaire ouais. Du tout. Il n'y a pas de scène de bataille. Par contre, on voit ce que c'est pour ceux qui sont sur place et qui découvrent quelque part les pots cassés, quoi. C'est cette espèce de chaos qui se répand. Et j'ai trouvé au final, très astucieux, le choix du silence, le choix de pas avoir. Alors je sais pas pourquoi vous avez fait ce choix. Vous allez sans doute pouvoir nous répondre.
Le fait qu'il y ait pas de dialogue dans le film, en fait, c'était un choix. En fait, c'est une question toujours compliquée quand on fait un film de reconstitution historique, parce que les costumes, on a des sources d'images, voilà. Mais par contre, comment les gens parlent il y a 200 ans.
Il est intelligent, il est fort, c'est exactement c'est ce qu'on s'est dit.
Je suis intelligent parce que je pense comme vous, c'est ça?
Non, pas, non. Alors oui. Mais oui, en réalité, pourquoi on va dire non? En quelque sorte, oui.
Il est
non.
fort.
Il est comme nous.
Voilà, on est fort, on est très fort. Non mais voilà, c'est vraiment une question qui se pose, d'autant que là, en ce moment, j'écris un long métrage, pareil, un long métrage historique, et se pose toujours la question de savoir comment les gens parlent. Et en fait, le problème, c'est que personne ne sait comment les gens parlent à l'époque. Donc, je me suis dit, n'écris pas de dialogue. Voilà, et en fait, cette histoire, elle nécessitait pas de dialogue de toute façon. Personne n'a vu le film en me disant, c'est dommage quand même qu'à un moment donné, ils se parlent pas. Et si les gens ne se disent pas ça, c'est parce qu'en fait, il y a pas besoin. Et au cinéma, je trouve souvent que quand il y a pas besoin de faire parler les personnages, il faut pas le faire. C'est toujours plus payant, c'est toujours plus fort, je trouve.
C'est parfois là, trop bavard.
En fait, ça dépend. Si vous faites une comédie, ouais. Comme Woody Allen, on va pas demander à Woody Allen de faire un film sans bien dialogue. Sûr. Mais Woody Allen. Mais par contre, quand tu parlais de Tarkovsky, par exemple, voilà, c'est des films où ça parle peu en général. Et c'était une influence, qui est très importante pour moi pour faire ce film. Et voilà, et c'est la leçon que Hitchcock disait. Hein. Hitchcock disait toujours, voilà, si vous faites parler les personnages, ne les faites parler que pour le strict minimum. Le reste du temps, faites confiance à l'image, faites confiance au son et à la mise en scène. Et parce que au final, c'est du cinéma, c'est pas du théâtre, c'est pas de la littérature. Donc les mots ont leur place, mais
les silences voilà. Également.
Les silences également. Hein.
Et le rythme d'un film est extrêmement important. Alors on va jouer et on va perdre après avoir dit qu'on était très fort.
Match s'est perdu à la 90e quand l'arbitre y siffle.
Voilà, c'est le moment où les auditeurs ont conscience, voilà, des gens qu'ils écoutent chaque soir.
Notre blind test.
Qu'est-ce que vous nous avez préparé?
Ah mais je vais pas vous donner les titres, ça.
Mais combien de titres?
Je pense qu'on peut se faire en 4 manches.
4 manches.
Qu'est-ce que vous en dites? Donc, qui joue Michael, alors je ne peux pas l'entendre dans le poste, ce sera vous qui validerez les points au nom de Michael. Voilà, pas de tricherie, hein, s'il vous plaît. Évidemment.
Comme si c'était le genre de la maison.
C'est sûr, elle est très bonne perdante. Donc, Marie Brondine, avec votre permission, je lui amenais évidemment. Et je propose que nous intégrions au jeu notre...
Simon Guérini et Alicia Bruni, qui réalisent l'émission. Brunini,
s'ils ont envie de donner... Donc, certains de ces titres sont connus, c'est des riffs très connus, donc là, ça se joue à la vitesse. D'autres, c'est peut-être un peu moins connu, c'est des choses que vous aurez entendues, et ça va être... Là, ça va faire vraiment appel à l'oreille, à la culture générale.
Et d'autres sont inventés, ce sont des créations, ah, donc nous ne pourrons pas trouver.
Non, non, pas de créa. Nous ne sommes pas là pour ça. Est-ce qu'on y va?
Allez, c'est parti.
Allez, en démo.
Metallica. Nothing Else Matters.
Oh là là. Oh non.
Il est fort.
Je ne l'invite plus, Julien Ménet, je ne l'invite plus. Qu'est-ce que c'est ces histoires?
One point.
Non, mais j'en peux plus, mais non.
1-0. 1-0 avec donc Metallica.
Michael, vous l'aviez?
Oui, oui, mais on m'a dit de ne pas répondre. Alors je
Je l'avais, mais on m'a dit de ne pas répondre, alors je me suis tue.
Il a reçu des consignes avant.
C'est trop facile.
Allez, les consignes en off.
Un point, bon. Julien.
On continue.
Azer.
C'est facile, Azer, pas Bojivant.
J'ai entendu Alicia en premier.
Oh, Alicia, c'est
one
pour
point
vous.
For Alicia Brunini. Allez. Oh là alors, là. On va continuer. Ah, on va jouer ça. Eh, ma ouais, c'est beaucoup nichide, quoi. Ah, Christ.
Et il jure en plus. Ça, c'est Antoine Tati, chez Patrimoine.
Non.
Non. Non, ça, c'est Avicii, non? Non?
Nine.
Ah, ça aurait pu, ouais.
Red Hot, Chili Peppers, non?
Les Red Hot?
Yes.
Allez, Michael, un point. Oh là là. Donc, ce qui nous fait un score d'un point pour Julien, un point pour Alicia, un point pour Michael, zéro pour Marie. Quatrième titre, pour donc départager.
Quatrième titre, alors il faut que j'en trouve un.
Là, il bosse. Le garçon bosse.
Bon, on va trouver quelque chose. Ah! On va jouer
de
ça.
De Balagne.
On va. Non, ça serait être jugé parti, hein, en l'occurrence.
Le groupe de Marc-André à Castellane.
On va trouver, on va faire ça.
Je l'ai.
J'ai aussi.
Allez, laissez Julien, Michael, allez.
Allez, on laisse.
Non, donnez-le, Michael, donnez-le.
Tiens, Diallez, et tu les cousi poco.
Oh là 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 là. Mesdames et messieurs, c'est encore une fois Michael Andréani qui remporte notre blind test. Vous avez vu comme je suis heureuse? Merci beaucoup, Marc-André Castellani.
Ça respire la joie sur votre visage.
C'est assez équilibré comme match.
Oui, c'est assez équilibré, mais enfin, il a quand même remporté. Bravo, Julien Ménet. J'ignorais que vous étiez comme ça, fort en blind test de Marc-André. Julien, vous réalisez Over la nuit, série que nous découvrirons lundi prochain 20h45 sur France 3 Corse via Stella. Au revoir Marc-André, vous pouvez rester, il n'y a plus que quelques minutes. Hein, ouais. Franchement, votre présence nous réchauffe le cœur. Et en avant-première demain au cinéma L'Ellipse à 21h pour 3 épisodes. Michael Ron, il fait des cœurs et tout comme ça.
Non, c'était pas des cœurs, c'était des gros yeux.
Bon, j'ai cru que c'était des cœurs.
Il y en a assez des cœurs.
Vous travaillez sur un court-métrage et puis vous êtes en écriture aussi depuis un petit moment pour peut-être un long.
Oui, tout à fait. Oui, ça fait un peu plus d'un an maintenant que je travaille sur l'écriture d'un long métrage et je prépare le tournage d'un court métrage cet hiver normalement.
Que vous avez écrit également?
Que j'ai écrit également, oui, qui sont des projets originaux et le court métrage se passe en Corse, dans le monde de la chasse.
Voilà. Ça fait un petit moment, je crois, que vous travaillez sur ce court métrage. Vous l'avez
sur
écrit
ce court métrage,
il y a
oui.
3 ans, ça a commencé.
Oui, j'ai commencé à écrire il y a 3 ans. En fait, c'est toujours des. Alors moi, je suis assez lent. À l'écriture, ça met beaucoup de temps à venir. Et puis en général, je réécris beaucoup de versions différentes. Donc voilà, ça explique. Et puis c'est des films aussi, c'est des courts-métrages, mais c'est des films de 30-40 minutes. Donc c'est quasiment un travail aussi important en termes d'écriture qu'un je ne vais pas dire qu'un long métrage, mais presque. Voilà, c'est vraiment, aujourd'hui, on demande, surtout dans les commissions d'aide et tout ça, vraiment d'aller au bout du scénario le mieux possible. Et du coup, c'est normal que ça prenne du temps comme ça.
Marie Terragno à la production ?
Oui, pour le court-métrage, oui.
Et Calanzane en fond de décor ou pas?
Je pense pas. Non, La Terre Brûlée, c'était en grande partie en Balagne, parce que moi j'ai vécu à Calanzane assez longtemps. Mais non, celui-là, ça sera ailleurs. C'est bien de délocaliser un peu.
Bon, très bien. Et le long métrage, on peut savoir. Jamais de la vie. On sait que c'est un film historique.
C'est un film d'époque. Voilà.
Un film d'époque.
Voilà, qui se passe pas en Corse.
Pourquoi il faut absolument regarder Over la nuit?
Parce que lundi soir, 20h45, que faire d'autre?
Non, mais surtout parce qu'on a écouté Michael Andréani et qui nous a raconté un peu l'histoire de la fiction en Corse. Et je trouve ça intéressant d'avoir ce panel en tête et de voir comme les choses ont évolué.
Oui, tout à fait.
Et c'est encore une nouvelle proposition.
Oui, je pense que c'est un peu, je ne vais pas dire la série de la maturité, parce que c'est un grand mot, mais je pense qu'entre Back to Corsica et Ouvert la nuit, il y a vraiment quelque chose qui s'est créé dans la série avec des histoires sur un temps plus long, vraiment, où on approfondit des personnages, voilà, on sort un peu juste de la comédie situation, même si j'aime énormément tout ce qui s'est fait jusque-là. Moi, j'avais même réalisé une série qui s'appelait Raph et Max avec Raph et Max. Alors c'est
vous j'ignorais que c'était vous. Ouais.
Oui, c'était moi. Enfin, c'était assez fou d'ailleurs. Mais voilà, là, c'est vraiment des séries où on creuse des personnages vraiment profondément, où il y a des sentiments, vraiment de l'émotion. Et je pense que c'est quelque chose qui manquait peut-être un peu. Voilà, on était très très fort sur le comique, sur des choses comme ça. Mais c'était beaucoup de personnages un peu superficiels. Et là, on rentre vraiment dans l'intimité de ces gens-là. Et je trouve que c'est important qu'on puisse avoir des séries comme ça en Corse.
Marc-André Castellani, vous parlez de La Terre Brûlée en vous parlant d'une esthétique propre à votre écriture cinématographique. Comment on impose justement son œil et son écriture cinématographique lorsqu'on arrive un mois et demi avant une série? Ça a été le cas avant le tournage de cette série Ouvert la nuit.
Alors, ce qui moi m'a aidé, et d'ailleurs je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Paul, le producteur, est venu me chercher, c'est que j'avais fait à la fois des choses comme La Terre Brûlée et en même temps j'avais travaillé sur Hôtel Paradis, et en fait j'avais un peu la connaissance de ces deux façons de travailler, c'est-à-dire la façon cinéma où on a vraiment le temps et la façon télé où on va très 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 vite. Et moi je trouve pas qu'il y ait de meilleure solution entre ces deux industries différentes avec deux exigences différentes. Ce qui était important pour moi sur la série, c'était que ça ne fasse pas télé. C'était que vraiment on ait quand même l'impression de regarder, non pas je veux dire du cinéma, mais qu'on sente quand même que il y avait une recherche dans la mise en scène, que la caméra était là pour raconter des choses et pas uniquement juste enregistrer des dialogues. Et ça, alors c'est sûr que quand on tourne quasiment un épisode par jour, c'est très difficile à mettre en place, mais voilà, il y a eu une collaboration avec le chef opérateur Yannick Casanova qui s'est fait là-dessus, et on a réussi à trouver le moyen justement que ça ne ressemble pas à une série télé lambda, qu'on ait une ambition un peu au-delà. Et après, je pense que c'est aussi tout bête. Je pense que c'est juste qu'il faut se donner cette ambition-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des séries télé qui se posent pas la question, en fait, qui sont là, et c'est pas leur histoire, ça leur appartient pas, ils viennent, ils filment, et puis ils s'en vont. Et nous, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Je pense qu'en Corse, c'est pas comme ça qu'on fonctionne aussi. Je pense que les gens sont attachés. Voilà, quand moi je fais une série comme Ouvert la nuit, je suis pas un réalisateur qui vient et qui fait ce boulot.
Qui fait le job,
voilà,
et qui repart, ouais.
Je suis aussi investi dans l'histoire de la fiction en Corse, et ça me
On rappelle que vous avez vécu à Toulouse, hein?
Je vis à Toulouse.
Toujours encore?
En ce moment, je vis à Toulouse. Ouais, j'ai vécu partout.
Pour Over la nuit, c'est pas parti de là.
Vivre,
ouais.
Voilà, je suis quand même parti vivre à Toulouse pour la série, pour le montage.
Ouais.
Et je suis revenu en Corse pour travailler dans le cinéma et à la télévision. Et voilà, les gens qui travaillent dans ce secteur ici, ils sont vraiment investis de ça. C'est pas juste des employés, des techniciens. C'est vraiment des gens qui croient à ça, en fait.
On espère donc que l'accueil sera chaleureux et enthousiaste. C'est lundi, le 23, 20h45. Un épisode ou deux épisodes diffusés?
Je crois que c'est deux épisodes par soir.
Deux épisodes par soir. Il y en a 40 en tout. Ça s'appelle Over la nuit. C'est produit par Marie Terragno. C'est réalisé par notre invité Julien Ménet. Et puis demain, une avant-première à l'Ellipse à 21h avec trois épisodes. Et puis on attend avec impatience votre prochain court-métrage et votre long-métrage qui un jour verra le jour. Merci Marc-André Castellani,
merci
Michael Andréani, Simon Guéry,
merci à tous.
Et Alicia Brunini qui réalisait cette émission. Julien Ménet, nous croisons les doigts pour la suite de vos créations et merci d'avoir été là ce soir.
Merci.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'ai des gants de crin, Joseph. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Existe encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. Chercher à te plaire, dresseur de loulou, dynamiteur d'accueil. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore. Sauter à l'élastique, voleur d'enfants au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens. Des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho.
CFM. Bonjour, c'est Stéphane Thébault. Toute l'année, je rencontre des gens qui en ont assez de se pencher pour ouvrir ou fermer leur volet battant. Saviez-vous que Bubendorf, la référence du volet roulant, vous propose aussi une motorisation solaire pour votre volet battant à 599 euros pose comprise.
Prix TTC posé conseillé des trois solutions solaires achetées. Conditions intégrales de l'offre et installateur sur solar.bubendorf.com.
MMA, interruption spéciale.
Benoît, toujours pas de scoop.
Si, justement. Jusqu'au 31 octobre 2019, on peut gagner son véhicule pro en souscrivant un contrat MMA BTP.
Envoyez la pub.
MMA. Règlement complet et conditions d'éligibilité en agence ou sur entreprise.mma.fr.
La paire.
Salut, vous êtes bien sur le répondeur de Léo.
Et Justine, on est